Chapitre 11. Ce fut le chat qui sauva Richard. Effrayé, il émit un miaulement désespéré, sauta sur la tête du sourcier et le força à se baisser. Pas assez pour que le garne le manque, mais suffisamment pour ne pas encaisser l'impact de plein fouet. Les griffes du monstre lui raclèrent pourtant les omoplates et il s'étala à plat ventre dans la poussière, le souffle coupé. Avant qu'il puisse reprendre une inspiration, la bête lui sauta sur le dos, son poids l'empêchant de respirer et de dégainer son épée. Du coin de l'œil, il vit Zed être projeté dans un bosquet par un deuxième garne. Richard se prépara au coup de griffe qui allait inévitablement suivre, mais avant que le monstre le déchiquette, Callan, toujours debout sur le chemin, lui lança au museau des pierres qui rebondirent sans lui faire de mal, mais le déconcentrèrent. Le garne rugit, la gueule grande ouverte. Son cri déchirant la nuit, il ne lâcha pas Richard, piégé comme une souris sous la patte d'un chat. Les poumons en feu, il lutta pour se soulever tandis que des mouches à sang lui piquaient le cou. Il lança une main en arrière, saisit une pleine poignée de fourrure et tira pour écarter l'énorme bras de son dos. À la taille du membre, il comprit qu'il avait affaire à un garne à queue courte. L'animal était beaucoup plus gros et dangereux que son congénère à longue queue qu'ils avaient vu dans la clairière. L'épée était coincée sous son ventre et la garde s'enfonçait douloureusement dans son estomac. Il ne pouvait pas l'atteindre. Les veines de son cou brûlaient comme si de l'acide avait remplacé son sang. Richard sentit qu'il allait perdre connaissance. Bien qu'il se débattît toujours, les grognements du monstre lui semblaient de moins en moins forts et de plus en plus lointains. Emporté par sa frénésie, Callan approcha trop du garne, qui tendit un bras avec une rapidité terrifiante et l'attrapa par les cheveux. Ce faisant, il se déplaça assez pour laisser Richard se remplir les poumons d'air. Hélas, il ne pouvait toujours pas bouger. Callan hurla de douleur. Jailli de nulle part, le chat, toute griffe dehors, sauta au visage du monstre et s'attaqua à ses yeux. Pour s'en débarrasser, le garde dut lever le bras qui ne tenait pas Callan. Saisissant l'occasion, Richard roula sur le côté, se releva dans le même mouvement, dégaina son épée et l'abattit sur le bras du monstre qui emprisonnait son ami. Le membre tranché net, Callan tituba en arrière, de nouveau libre. Avec un rugissement furieux, la créature frappa son adversaire d'un revers de son bras indemne et l'empêcha de lever de nouveau son épée. Richard vola dans les airs puis atterrit sur le dos. Il s'assit lentement, à demi sonné. Arrachée à sa main par la violence du choc, l'épée n'était plus en vue. À coup sûr, elle était tombée quelque part dans les broussailles. Au milieu du chemin, alors que du sang coulait à gros bouillons de son moignon, le garne hurlait de douleur. Mais ses yeux verts cherchaient déjà l'objet de sa haine. Très vite, ils se rivèrent sur Richard. Callan n'était plus dans le champ de vision du sourcier. Sur sa droite, entre les arbres, un éclair inonda la scène d'une aveuglante lumière blanche. L'explosion qui suivit manqua à percer les tympans de Richard. L'onde de choc le projeta contre un arbre et parvint à faire reculer le garde en arrière. Des flammes jaillirent entre les troncs, suivies par des éclats de bois et d'autres débris volants, puis par d'épaisses volutes de fumée. Pendant que le garde se relevait, Richard se lança à la recherche de son épée. À demi aveuglé par la lueur de l'explosion, il dut se contenter de tâtonner au hasard, mais il y voyait encore assez pour remarquer que le monstre repassait à l'assaut. Une incroyable colère monta en lui. Il sentit qu'elle bouillonnait aussi dans l'épée. La magie de l'arme, invoquée par son maître, se manifesta à lui. Le sourcier appela son épée, la convoqua, l'implora de lui revenir. L'arme gisait devant lui sur le chemin. Il en était aussi sûr que s'il connaissait sa position exacte, comme s'il lui avait suffi de tendre la main pour la toucher. Il avança, les jambes en coton. Près de l'endroit où le garde l'avait si durement frappé, il vit des silhouettes passer devant lui sans parvenir à les identifier. Tout ce qu'il savait à cet instant, c'était que chaque inspiration déchirait son flanc gauche. Des mouches à sang s'écrasant sur son visage, il ne sut bientôt plus où il était ni où se trouvait le chemin, mais il savait toujours où l'attendait l'épée de vérité. Il se pencha pour la ramasser. Un instant, ses doigts touchèrent la lame et il crut apercevoir Zed, puis le garne le tira par le bras droit, l'entoura de ses ailes poisseuses, le serra contre lui et le souleva du sol. Quand une vague de douleur déferla dans son flanc gauche, Richard ne put s'empêcher de crier. Il se tut lorsque des yeux verts se rivèrent dans les siens, la gueule béante du monstre ne laissant aucun doute sur ce qui allait suivre. Une haleine fétide agressa les narines du sourcier quand le garde l'attira vers ses crocs poisseux de bave. De toutes ses forces, Richard asséna un coup violent qui atteignit sa cible, le moignon de bras de la bête. Le garde rugit de douleur et le lâcha. Une dizaine de pas derrière eux, Zed sortit du couvert des arbres. Tombé à genoux, le sourcier saisit son épée. Zed tendit les mains, doigts écartés. Des flammes magiques jaillirent et volèrent vers leur cible en sifflant comme des serpents. Elles illuminèrent tout sur leur passage, grandirent et s'unirent pour former une boule de feu en constante expansion qui évoquait une créature vivante. Le fabuleux projectile percuta le dos de la bête avec un bruit mat. En un clin d'œil, des flammes bleues et jaunes enveloppèrent le garde et commencèrent à le consumer. Les mouches à sang explosèrent pendant que le feu magique dévorait le monstre. Le garde disparut dans la fournaise, qui se volatilisa quelques instants plus tard. Dans l'air de la nuit redevenu paisible, il ne flottait plus qu'une odeur de fourrure brûlée et de fumée. Richard s'effondra, épuisé et perclus de douleur. Dans son dos, les plaies souillées de poussière et couvertes de gravillons lui faisaient un mal de chien. À chaque inspiration, son flanc gauche semblait vouloir se déchirer. Rester étendu là, voilà tout ce qu'il désirait. Sentant qu'il tenait encore l'épée, il laissa le pouvoir l'envahir. La colère de l'arme l'aiderait à ignorer sa souffrance. Le chat s'approcha, lui passa sa langue râpeuse sur les joues et lui flanqua de gentils coups de tête. « Merci, Matou !» souffla le sourcier. Zed et Kalan accoururent, se penchèrent sur lui et voulurent le prendre par les bras pour l'aider à se relever. « Non, vous allez me faire mal. Laissez-moi me redresser tout seul. » « Un problème ?» demanda Zed. « Le garde m'a frappé au côté gauche. C'est très douloureux. Voyons un peu ça. » Le vieil homme palpa délicatement les côtes de Richard qui grimaça de douleur. « Aucun os ne perce la peau. Ça ne doit pas être si grave que ça. » Richard se retint de ricaner, certain que ça lui ferait encore plus mal. « Zed, cette fois tu n'as pas eu recours à un truc, mais à la magie. »«
À la magie, oui, » confirma le sorcier. « Et s'il nous épiait, Darkenral a dû s'en apercevoir aussi. » Il ne faut pas traîner ici. Voyons si je peux t'aider. »
Kalan s'agenouilla de l'autre côté de Richard et posa doucement les doigts sur la main qui tenait l'épée et la magie. À ce contact, le sourcier sentit jaillir de l'arme une décharge d'énergie qui manqua lui couper de nouveau le souffle. L'épée, comprit-il, essayait de l'avertir et de le protéger. Kalan lui sourit. Elle ne s'était aperçue de rien. Zed plaqua une main sur les côtes de son jeune ami, lui mit un index sous le menton et parla d'une voix calme et rassurante. En l'écoutant, Richard tenta de se convaincre que l'épée n'avait pas réagi au contact des doigts de Kalan sur sa peau. Zed l'informa qu'il avait trois côtes cassées. Un peu de magie, précisa-t-il, les renforcerait et les protégerait jusqu'à ce qu'elles soient guéries. Sur un ton très étrange, il ajouta que la douleur diminuerait mais ne disparaîtrait pas avant que tout soit ressoudé. Il continua à parler, mais ses mots perdirent toute signification pour son patient. Quand ce fut fini, Richard eut le sentiment de se réveiller d'une bonne nuit de sommeil. Il s'assit et constata que la souffrance était supportable. Avant de se lever, il prit soin de remercier le vieil homme, puis il posa son épée et témoigna de nouveau sa reconnaissance au chat. Confiant l'animal à Kalan, il se mit à la recherche de son sac et le trouva au milieu du chemin où il était tombé pendant la bataille. Les plaies dans son dos restaient douloureuses, mais il s'en inquiéterait quand il serait arrivé à destination. S'assurant que les deux autres ne regardaient pas, il enleva le croc de son cou et le glissa dans sa poche. Ensuite, il demanda à ses amis s'ils étaient blessés. Vexé par cette question, Zed déclara qu'il n'était pas aussi fragile qu'il le paraissait. Plus sobre, Kalan annonça qu'elle allait bien grâce à lui. Quand Richard précisa qu'il espérait ne jamais participer à un concours de lancer de pierre où elle serait inscrite,
Elle sourit d'aise tout en remettant le chat dans le sac à dos. Richard la regarda ramasser son manteau et l'enfiler. Il était toujours perplexe au souvenir de la réaction de l'épée au moment où elle l'avait touché.
« Il faut filer !»
leur rappela Z. Après environ un quart de lieue, plusieurs petits chemins vinrent croiser le leur. Richard s'engagea sur celui qui l'intéressait pendant que Z semait de nouveau sa poudre magique pour couvrir leurs traces. Le sentier s'étrécissant, ils marchèrent en file indienne. Richard en tête, Callan derrière lui et Z fermant la marche. Ils gardèrent constamment un œil sur le ciel et Richard ne lâcha pas un instant la garde de son épée. Projetées par le clair de lune, les ombres des branches agitées par le vent passaient et repassaient sur la solide porte de chêne aux énormes gonds en fer. Callan et Zed ayant refusé d'escalader la clôture hérissée de pics du jardin, Richard s'approchait seul de la maison. Il allait frapper à la porte quand une main puissante le saisit par les cheveux. La lame d'un couteau se plaqua simultanément sur sa gorge.
« Chase !» souffla-t-il pétrifié.
« Richard !»
s'exclama son ami avant de lui lâcher les cheveux.
« Que fiches-tu ici en plein milieu de la nuit? Tu sais, il faut être idiot pour essayer d'entrer chez moi par effraction. »«
Qui parle d'effraction? Je ne voulais pas réveiller toute la maison. »«
Tu es couvert de sang. Le tien ou celui de quelqu'un d'autre ?»«
Surtout le mien, j'en ai peur. Chase, va ouvrir ton portail. Callan et Zed attendent dehors, nous avons besoin de toi. »
Jurant comme un charretier chaque fois qu'il marchait sur des brindilles ou des cailloux, une expérience déplaisante quand on est pieds nus, Chase alla chercher les amis de Richard et les invita à entrer. Emma Brownstone, son épouse, était une femme adorable qui ne cessait jamais de sourire. Bref, l'opposé de son mari. Si elle avait intimidé quelqu'un, elle aurait eu des remords pendant des jours. Ce bon vieux Chase, lui, n'arrivait pas à fermer l'œil quand il n'avait pas fichu la trousse à un de ses contemporains. Mais ils se ressemblaient sur un point. Rien ne paraissait jamais surprendre ou inquiéter Emma. À cette heure tardive, dans sa longue chemise de nuit blanche, ses cheveux grisonnants en chignon, elle affichait le même calme que d'habitude. Imperturbable, elle entreprit de faire du thé à ses invités, comme s'il était normal de voir débarquer en pleine nuit trois olibrius couverts de sang. Cela dit, avec un mari comme Chase, c'était peut-être son pain quotidien. Richard pendit son sac au dossier de sa chaise, en sortit le chat et le donna à Callan. Elle le posa sur ses genoux, lui gratta le dos et déclencha un concert de ronronnements. Zed prit place de l'autre côté de Richard. Après avoir enfilé une chemise, Chase alluma les lampes accrochées aux grosses poutres de chêne. Il avait abattu les arbres lui-même, se chargeant d'élaguer les troncs et de les mettre en place. Les noms de ses enfants étaient gravés sur une des poutres. Derrière sa chaise, Richard vit la cheminée construite avec les pierres dénichées par Chase au cours de ses voyages. Chacune avait une couleur, une forme et une texture unique. Un des grands plaisirs de Chase, quand il trouvait un auditoire complaisant, consistait à préciser d'où elle venait et de s'étendre sur les périls qu'il avait bravés pour les récupérer. Sur la table, un saladier de bois rempli de pommes attendait le bon vouloir des invités. Personne n'y touchant, Emma l'enleva et posa à sa place une théière fumante et un pot de miel. Après avoir distribué des tasses, elle dit à Richard d'enlever sa chemise et de déplacer un peu sa chaise pour qu'elle nettoie ses blessures. Une tâche à l'évidence dont elle avait l'habitude. Avec une brosse et de l'eau savonneuse, elle lui frotta les omoplates comme elle l'eût fait avec une casserole sale. Richard se mordit les lèvres, retint une ou deux fois son souffle et plissa le front de douleur. Emma s'excusa de le torturer ainsi, mais si elle n'enlevait pas tout maintenant, il le regretterait plus tard. Quand elle eut fini, elle lui sécha le dos avec une serviette et appliqua un baume apaisant sur les plaies. Chase s'éclipsa et rapporta une chemise propre que Richard enfila avec reconnaissance puisqu'elle lui fournissait une protection, au moins symbolique, contre les soins de son hôtesse.
« Quelqu'un a faim ?»
demanda Emma avec un grand sourire.
« Eh bien... » disait en levant la main, « je n'aurai rien contre. »
Richard et Callan le foudroyant du regard, il se ravisa.
« Non, rien pour nous, merci. »
Emma alla se placer derrière Chase et lui passa une main dans les cheveux. Il se tortilla comme une anguille, embarrassé par cette manifestation publique d'affection.
N'y tenant plus, il se dégagea sous prétexte de servir le thé.
Le front plissé, il poussa le pot de miel au centre de la table.
« Richard, depuis que je te connais, tu as un talent fou pour éviter les ennuis. Mais ces derniers temps, tu sembles avoir perdu la main. »
Avant que le jeune homme puisse répondre, Lee, une des filles du couple, sortit de sa chambre en se frottant les yeux.
Quand Chase lui fit une grimace, elle lui rendit bravement l'appareil.
« Oh !»
dit son père.
« Quelle vilaine petite fille. Je crois n'en avoir jamais vu d'aussi laide. »
Lee sourit, courut vers Chase, entoura son énorme jambe avec ses petits bras et posa la tête sur ses genoux. Ravi, il lui ébouriffa les cheveux.
« Il faut retourner au lit, ma chérie. »«
Un instant, » dit Zed. « Lee, viens donc ici. »
La fillette fit le tour de la table.
« Mon vieux chat se plaint de n'avoir jamais d'enfant avec qui jouer. »
Lee jeta un coup d'œil furtif à l'animal.
« Tu ne saurais pas chez quel gamin il pourrait faire un petit séjour ?»«
Zed, et s'il restait ici ? Avec nous, il s'amuserait bien. »«
Affaire conclue, » dit Emma. « Lee, il est temps de retourner te coucher. »«
Emma, » fit Richard, « je peux te demander un service. Tu prêterais des vêtements de voyage à Callan ?»«
Elle a les épaules trop larges et les jambes trop longues pour mes tenues. » Mais celle d'une de mes aînées devrait convenir.
Emma sourit à Callan et lui tendit la main.
Venez, mon ami, allons voir ça.
Callan confia le chat à Lee et se leva.
J'espère qu'il ne t'ennuiera pas, mais je crains qu'il tienne absolument à dormir avec toi.
Vraiment ?
S'exclama l'enfant.
Ce sera très bien.
Elles sortirent toutes les trois, Emma prit soin de fermer la porte derrière elle.
Alors ?
Demanda Chase avant de boire une gorgée de thé.
« Tu te souviens de la conspiration dont parlait mon frère ? Elle est pire que ce qu'il pense. »«
Vraiment ?»
Richard tira l'épée de vérité de son fourreau et la posa sur la table. La lame polie brillait de mille feux. Chase se pencha en avant et souleva l'arme du bout des doigts. Il la fit glisser sur ses paumes, l'étudia longuement et passa l'index le long du mot « vérité ». Gravé sur la garde. Après avoir éprouvé du pouce le tranchant de l'acier, il afficha une curiosité de bon aloi, rien de plus.
Beaucoup d'épées ont un nom. En général, il est sur la lame. C'est la première fois que j'en vois un sur la garde.
Visiblement, il attendait qu'on daigne lui en dire plus.
Chase, tu as déjà vu cette arme ?
Le tensa Richard.
Tu sais de quoi il retourne ?
« Exact. Mais je ne l'avais jamais contemplé de si près. »
Il releva les yeux soudain tendus.
« Richard, que fiches-tu avec cette épée ?»
Le sourcier soutint sans ciller le regard de son ami.
« Elle m'a été donnée par un grand et noble sorcier. »
Chase fronça les sourcils et regarda Zed.
« Quel est ton rôle dans cette histoire ?»
« C'est moi, le grand et noble sorcier. »«
Que les esprits soient loués !»
souffla Chase.
« Un authentique sorcier. Enfin !»«
Nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit Richard, « et j'ai des questions à te poser sur la frontière. »
Chase soupira, se leva et approcha de la cheminée. Un bras posé sur le manteau, il regarda longuement les flammes comme s'il y cherchait l'inspiration.
« Richard, sais-tu en quoi consiste mon travail ?
Tu tiens les gens éloignés de la frontière, pour leur propre bien.
Et sais-tu comment on se débarrasse des loups ?
En les tuant, je suppose.
Non. La chasse en élimine quelques-uns, mais d'autres naissent et on se retrouve vite à son point de départ. Pour avoir moins de loups, c'est leur proie qu'on doit chasser. Il faut piéger les lapins, en somme. » Quand les loups n'ont rien à manger, ils font moins de petits. Au bout du compte, on est gagnant. C'est ça mon travail. Piéger les lapins.
Richard frissonna, et ce n'était pas de froid.
La plupart des gens ne comprennent rien à la frontière, et encore moins à notre mission. Ils pensent que nous faisons respecter une loi stupide. Les plus vieux ont peur de la frontière. D'autres croient en savoir plus long que nous et viennent dans le coin pour braconner. Ceux-là ne redoutent pas la frontière, alors nous nous arrangeons pour qu'ils aient peur des gardes-frontières. Nous sommes une menace bien réelle à leurs yeux, et on s'arrange pour le rester. Ils détestent ça, mais à cause de nous, ils n'osent plus s'approcher. Quelques fous continuent pourtant à jouer au chat et à la souris avec nous. On n'espère pas les coincer tous, et on s'en fiche. L'essentiel est d'en dissuader un nombre suffisant pour que les loups de la frontière n'attrapent pas assez de lapins pour devenir plus forts. Richard, nous protégeons les autres, mais pas en les empêchant de s'aventurer sur la frontière. Ceux qui sont assez stupides pour essayer, on ne peut rien pour eux. Notre travail est de tenir la majorité des gens loin de la frontière afin que certaines créatures ne deviennent pas assez puissantes pour en sortir et dévorer tout le monde. Les gardes ont tous vu des monstres en liberté. Nous, nous comprenons. Pas les autres. Ces derniers temps, de plus en plus de créatures sont venues chez nous. Le gouvernement de ton frère nous paie, mais il ne comprend rien non plus. Notre loyauté ne va pas à un pouvoir et encore moins à des lois. Notre seul devoir est de protéger les innocents des monstres qui surgissent des ténèbres. Au fond, nous sommes entièrement autonomes et nous obéissons aux ordres quand ils ne nous détournent pas de notre tâche. Si ça s'impose un jour, nous lutterons pour notre compte et nous suivrons nos propres consignes.
Il vint se rasseoir et posa les coudes sur la table.
Le seul à qui nous obéirons toujours, parce que notre cause est une composante de la sienne, c'est le sourcier. Un vrai sourcier.
Il ramassa l'épée et la tendit à Richard.
Je fais serment d'allégeance au sourcier.
Merci, Chase, dit Richard, très ému.
Il regarda Zed puis se tourna de nouveau vers le garde-frontière.
À présent, nous allons te dire ce qui se passe et ce que nous te voulons.
Richard et Zed se partagèrent le récit des derniers événements. Le jeune homme s'assura que Chase comprenne que l'heure n'était plus aux demi-mesure. Ce serait la victoire ou la mort. Telles étaient les règles du jeu dictées par Darkenral. Le garde-frontière écouta attentivement et mesura la gravité de la situation. Soudain sinistre, quand Zed mentionna la magie d'Orden, il n'eut pas besoin de longs discours pour être convaincu. Dans son métier, il avait vu plus de choses que ses deux interlocuteurs réunis n'en verraient jamais. Une excellente raison pour poser peu de questions, mais toujours les bonnes. La manière dont Zed avait manipulé la foule de lyncheurs lui plut tellement qu'il en rit aux larmes. Puis la porte se rouvrit sur Emma et Callan, désormais équipées comme une forestière aguerrie. Un pantalon vert foncé, une ceinture de cuir, une chemise ocre, un manteau noir et un sac digne de ce nom. Même si elle avait gardé ses bottes et sa bourse, elle semblait prête à la vie sauvage. Mais sa coiffure, son visage, sa silhouette et surtout son maintien indiquaient qu'elle était née pour une plus haute destinée.
« Mon guide, » dit Richard à Chase, qui leva un sourcil dubitatif.
Dès qu'Emma vit l'épée, son expression indiqua au sourcier qu'elle avait tout compris. Elle se plaça de nouveau derrière son mari, sans lui toucher les cheveux, mais lui posa une main sur l'épaule, consciente que les choses allaient très mal. Richard remit son arme au fourreau. Pendant qu'il racontait les derniers événements de la nuit, Callan vint s'asseoir près de lui. Quand il en eut fini, un long silence régna dans la pièce.
« Comment puis-je t'aider, Richard ?»
demanda enfin Chase.
« Dis-moi où est le défilé. »«
Quel défilé ?»
lâcha Chase immédiatement sur la défensive.
« Celui qui permet de passer de l'autre côté de la frontière. Je sais qu'il existe, mais je ne connais pas sa position et je n'ai pas le temps de le chercher. »«
Qui t'en a parlé ?»
Peu enclin à finasser, Richard sentit qu'il allait perdre patience.
« Chase, réponds à ma question. À une condition. »«
C'est moi qui t'y conduirai. »
Richard pensa à la petite famille de son ami. Chase prenait constamment des risques, mais là, c'était différent.
« Ce n'est pas nécessaire. »«
Pour moi, oui. L'endroit est dangereux. Vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds.
Je ne vous laisserai pas partir seul. La frontière est sous ma responsabilité. Si tu veux avoir cette information, il faudra me permettre de venir. »
Richard réfléchit quelques instants. Chase n'en démordrait pas et le temps leur manquait. La réponse s'imposait.
« Mon ami, nous serons très honorés que tu nous accompagnes. »«
Parfait !»
fit Chase en tapant du poing sur la table.
« Ton défilé s'appelle le passage du roi. C'est près de Havre du Sud, une ville pourrie. Par la piste des Fauconniers, il faut 4 ou 5 jours de cheval. Puisque tu es pressé, c'est ce que nous ferons. Maintenant, vous devez dormir un peu. Emma et moi nous chargerons des préparatifs du voyage. »